Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pèlerins, chers amis, Monsieur l'abbé de Chalard m'a demandé de vous donner quelques éléments, quelques explications au sujet de la personne et de l'apostolat de Madame Tangari, au sujet de ce pèlerinage. Et peut-être je pourrais, si vous le permettez, ajouter quelques considérations sur l'état de l'Église, et aussi la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Madame Tangari est née le 10 mars 1906 à Vienne. Et certainement, avec Vienne, elle a eu une relation intérieure dès son enfance avec le pèlerinage de Maria Zell. Elle déménage à Naples 1938. Elle se marie 1943. À l'occasion de son mariage, elle s'offre comme victime pour la sanctification du sacrement du mariage, ce qui lui vaut beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, et beaucoup de croix au long de sa vie. Le bon Dieu a bien exaucé cette offrande, a bien accepté cette offrande. Et au milieu de toutes ces tribulations et ces difficultés, elle trouve le chemin vers le Padre Pio de San Giovanni Rotondo, 1950. Elle le visite régulièrement, elle devient sa fille spirituelle. Lui, il est son confesseur. Et il la pousse maintenant, dans les presque 20 ans, n'est-ce pas, de cette direction spirituelle, vers la perfection chrétienne. Quand elle arrive au début avec tous ses problèmes et toutes ses difficultés, il lui répond une seule chose, prie. Prie. Et quand elle retourne, il lui répète la même chose. C'est la prière qui a la réponse à toutes ses difficultés. Quand elle a bien acquis la prière constante, perpétuelle, la prière intérieure. Le Padre Pio l'amène au deuxième stade, la deuxième étape. Il lui dit, dès maintenant, tu portes tout en patience. Et Madame Tangari a bien nous signalé qu'il n'a pas dit, tu supportes les choses, mais qu'il a dit, tu portes. Parce que quand on supporte, il y a encore un certain mécontentement intérieur, une certaine révolte contre son destiné, contre le fardeau que le bon Dieu a mis sur nos épaules. Il lui dit précisément, à partir de maintenant, tu portes tout dans la patience. La résignation absolue. Ou si vous voulez parler avec la retraite des Saint Ignace, l'indifférence la plus complète. Quand elle a acquis intérieurement ce conseil, le Padre Pio l'amène vers le troisième stade. Il lui dit, loue et glorifie Dieu toujours et partout. Et elle a vécu ce programme désigné par son Père spirituel. Elle a vécu, n'est-ce pas, la prière intérieure. On pouvait dire, n'est-ce pas, qu'elle ne priait pas seulement, mais elle était elle-même comme une prière incessante, qu'elle était dans la paix la plus parfaite de l'âme, qu'elle ne s'excitait pas. C'est une âme forte, mais pas une âme, n'est-ce pas, qui se laissait entraîner par les passions. Et elle était dans la glorification de Dieu. Alors, en 1954, si je me trompe, elle a visité ici Maria Zell. Elle retournait de l'Italie tous les ans, normalement, à Vienne, pour visiter sa famille. Et à cette occasion, elle faisait toujours des pèlerinages ici à Maria Zell. Et alors, à cette occasion, il y a un événement qui la marquait. L'Autriche était occupée à moitié par les Russes. Et la ligne de démarcation passait tout près d'ici. Maria Zell était libre, était dans la zone libre. Quelques kilomètres plus loin, c'était l'occupation des Russes. Et alors les Russes la cherchaient dans les bus. Et ils voulaient l'entraîner dans leur baraque. Elle savait très bien, n'est-ce pas, le danger. Et alors, elle a pris son refuge vers la Très Sainte Vierge. Et comme par un miracle, elle était comme enracinée dans le sol. Les Russes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils n'arrivaient pas à la bouger. Alors, ils blasphémaient, ils juraient, mais rien à faire. Ils ne pouvaient pas mouvoir cette âme. À midi, il y a un changement de garde. Et alors, elle a pu profiter de cette occasion pour s'enfuir. Elle est allée ici au sanctuaire. Et à cette époque, n'est-ce pas, la messe était toujours encore célébrée le matin. Et aussi, fallait-on être à jeun à partir de minuit si on voulait communier. Or, elle était à jeun. Et elle voulait encore communier, mais c'était tout à fait exceptionnel que quelqu'un, à une heure, communie encore. Or, elle arrive ici. Il y a un prêtre qui semblait l'attendre déjà. La demande, est-ce que vous voulez encore communier? Ah oui, oui, oui. Et alors, il lui donne la communion et c'est à cette occasion que Mme Tangari fait un vœu, à savoir de faire tous les ans un pèlerinage à Maria Zell, c'est dans ce sanctuaire, en action de grâce, pour sa libération, et elle voulait faire ce pèlerinage pieds nus. Elle a tenu sa promesse. Et pendant 12 ans, de 1955 à 1967, elle a fait ce pèlerinage tous les ans seule. À partir de ce moment, 67, il y a quelques amis qui se joignent. Et alors, elle a fixé pour son pèlerinage tous les ans le premier samedi du mois de novembre. Pourquoi cette date? Elle nous a expliqué l'une ou l'autre fois. Bien, c'est la date où le ténèbre commence à grandir, n'est-ce pas? La nuit se prolonge. Et ça nous rappelle, c'est pas, cette nuit de la perte de la foi, où le brouillard enveloppe la terre. C'était la fin, n'est-ce pas, du pontificat de Pie XII, où le brouillard du concile commençait, n'est-ce pas, de se répandre. Elle choisissait cette étape où il fait déjà froid, spécialement dans cette hauteur. N'oublions pas que Mariazell, c'est presque 1000 mètres d'altitude. Parce que, comme je vous expliquais déjà ce matin, bien, il y a le froid qui se répand sur la terre. Le refroidissement de la charité divine dans les cœurs. Ensuite, elle voulait faire ce pèlerinage pieds nus comme signe du détachement total, de l'humilité. Et elle voulait toucher la terre avec ses pieds nus, cette terre qui était foulée par notre Seigneur, cette terre qu'il a arrosée avec sa sueur, avec ses larmes et aussi avec son sang rédempteur. Bien sûr, il y a les petits cailloux, n'est-ce pas? On les a remarqués ce matin. Hein? Bien, qui nous rappellent un peu les obstacles, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Les petites difficultés qu'on peut quelquefois éviter et quelquefois non. Il y a l'effort, n'est-ce pas? Il fait froid. Et quelquefois, c'est un peu long, n'est-ce pas? Et il y a ce caractère pénitentiel. Pénitentiel. Il y a le pèlerinage qui est le symbole de l'ascension vers Dieu. Et à la fin, c'est la basilique. C'est le sanctuaire de Dieu où on est reçu par Notre-Dame pour être guidé vers le trône de la grâce, pour être guidé vers le trône de la très sainte Trinité. Voilà, n'est-ce pas, tout ce contexte, tout ce symbole, n'est-ce pas, de ce pèlerinage, n'oublions pas. Alors, Madame Tangari, donc, guidée, dirigée par le Padre Pio vers la vie intérieure, se développe vers une âme missionnaire et apostolique. Je dirais tout naturellement, parce que toute âme qui a vraiment une vie intense, intérieure, devient cela, devient missionnaire et apostolique. Et alors le Padre Pio lui confiait l'apostolat de l'Est. Elle devrait faire des voyages dans les pays derrière les rideaux de fer pour apporter des articles religieux aux prêtres, pour les encourager, pour faire tout un apostolat, créer tout un réseau d'aide pour l'Église en détresse. Or, elle va la première fois en Tchécoslovaquie avec des valises bien lourdes, de livres, de médailles, de crucifix, que sais-je, des chapelets. Et elle arrive à Prague et elle s'adresse, n'est-ce pas, au premier prêtre, au sacristain d'une église. Mais personne ne voulait ses affaires. Parce que, bien sûr, on ne pouvait jamais savoir, n'est-ce pas, qui est cette âme. Est-ce que c'est pas un piège des communistes? Est-ce que ce serait ça pas une espionne? On ne connaît pas cette âme. Alors, elle a fait tout cet effort pour rien. Tout était vain. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses valises. Elle est allée dans le sanctuaire de l'Enfant Jésus de Prague. Elle a déposé ses valises au pied de la statue de l'enfant de Jésus de Prague. Elle s'est mise à genoux, elle a dit, « Enfant Jésus, j'ai apporté toutes ces valises pour vous, pour personne d'autre. Prenez, disposez comme vous voulez, c'est à vous. » Et elle a prié, une heure, deux heures, longtemps. Et finalement, le sacristain a observé cette âme, n'est-ce pas, et commençait quand même de s'intéresser Il y a un entretien qui se dégage. Mais d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas? Et finalement, la glace a fondu. Il a pu entrer, la porte s'ouvrait. Et à partir de ce moment, elle a fait régulièrement les voyages en Tchécoslovaquie. Alors, il ne faut pas oublier que la Tchécoslovaquie et Prague ont bien sûr une importance très grande. Prague était, à un bon moment, la capitale du Saint-Empire romain. Les Slaves étaient missionnés par Cyril et Méthode, n'est-ce pas? Mais alors, la Bohême et la Moravie étaient spécialement missionnés et la mission était organisée, le christianisme a été organisé par Saint Wolfgang, évêque de Ratisbonne. Et une fois, n'est-ce pas, ces pays christianisés, ils ont bien accepté la foi chrétienne et même ont produit, n'est-ce pas, des fleurs, n'est-ce pas, de la sainteté. Pensez au roi Wenceslaus, dont nous célébrons la fête le 28 septembre, eh bien, qui a semé le blé avec ses propres mains, le blé, n'est-ce pas, qui devrait servir ensuite pour faire les hosties pour la messe, qui a pressé le raisin lui-même pour faire le vin pour la Sainte Messe, qui a visité en hiver pieds nus les pauvres, les misérables, pour leur apporter des aumônes et les consoler. Alors, donc, c'était une terre profondément chrétienne. Et vous avez peut-être entendu un peu, n'est-ce pas, de cette statue de l'enfant Jésus de Prague qui probablement vient, n'est-ce pas, des Carmes en Espagne. Et cette statue, bien sûr, signale, symbolise la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. La royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Royauté sur la famille. La famille qui accepte son évangile, qui accepte sa loi, n'est-ce pas, qui vit d'après ses commandements, qui est comme un petit sanctuaire. Royauté sur la société, royauté des peuples, royauté, n'est-ce pas, de notre Seigneur dans la Sainte Église. Et alors cela ouvre l'horizon vers les peuples de l'Est. Ici, Maria Zell, même, n'oublions pas, et le sanctuaire de l'Autriche, et même les Hongrois, même les Tchèques, n'est-ce pas, regardent vers Maria Zell. Et l'Empire hongrois autrichien, qui a existé jusqu'à la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas, était le dernier reste, pour ainsi dire, n'est-ce pas, du Saint-Empire. Saint-Empire. Et le cardinal Mincenti, qui est mort le 6 mai 1975, exactement le même jour où était condamnée la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'était exactement aussi le 6 mai 1975, il était enterré dans cette basilique ici à Maria Zell. Et il était là pendant 15 ans. Il était son corps était transféré à Estagon, en Hongrie. Ça fait un an et demi. Alors, je dis, n'est-ce pas, que ça ouvre l'horizon vers ces peuples de l'Est. Les Tchèques, les Slaves, vers la Pologne, les Polonais, n'est-ce pas, l'Hongrie. Et alors, pour encore donner une petite idée, n'est-ce pas, de cette christianisation de ces peuples, n'oublions pas, c'était Othon le Grand qui a battu les on, le un, n'est-ce pas, sur le champ de Lech, près des Augsbourg, 955. Et ensuite, il a fortifié la frontière vers l'est. Il a commencé, n'est-ce pas, tout en poussé vers la mission, n'est-ce pas, ces peuples-là. Et un autre empereur, Saint-Henri, n'est-ce pas, vers l'an 1000, a poussé le roi d'Hongrie, Étienne, d'accepter la foi catholique. Et le roi, en effet, a accepté la foi catholique, devenu chrétien, s'est fait baptiser, et pas seulement lui seul, mais avec tout son peuple. Et l'Hongrie, ainsi, est devenue, n'est-ce pas, un royaume chrétien, bien catholique. Et Étienne, n'est-ce pas, est un saint que l'Église vénère le 2 septembre. Sa fête est célébrée le 2 septembre dans les calendriers liturgiques. Alors donc, chers pèlerins, nous nous trouvons ici, si vous voulez, à un point stratégique, un point historique, c'est pas ici à Mariazell, avec toute cette conjoncture, avec toute cette liaison avec le peuple de l'Est. Alors donc, l'enfant Jésus a joué un grand rôle dans l'apostolat de Madame Tangari. Le 23 septembre 1968, le pâtre Bio meurt. Madame Tangari continue son apostolat que ce père lui a confié. Le 15 avril 1971, elle est arrêtée à la frontière tchèque, par les Tchèques. Elle est soumise à des interrogatoires qui ne finissaient pas, à la prison, à Brunn, c'est en allemand, c'était Brunn autrefois, et elle passe 15 mois en prison. Et vous avez un livre, n'est-ce pas, avec ses mémoires de prison, que je vous recommande vivement de lire. Alors, c'était des conditions inhumaines, abominables. Et après un an, Madame Tangri était au bout de ses forces. Elle n'était plus qu'un épavé, ruiné. Et finalement, elle était libérée, elle était renvoyée, c'est pas de la Tchécoslovaquie, elle a pu rentrer. Alors, elle n'a pas oublié que cette année-là, 1971, elle n'a pas fait son pèlerinage. Mais ses amis ont fait, à la date précise, le pèlerinage pour elle. Et elle, une fois libérée, n'a pas hésité de faire tout de suite, et comme première chose, son pèlerinage. Ici à Mariazell. 1974, le printemps, elle arrive pour la première fois à Écône. Je ne peux pas vous dire exactement comment elle est entrée en contact avec nous. Mais un bon jour, elle était là. Et nous, les séminaristes et langues allemandes, avaient la charge de s'occuper normalement des visiteurs du séminaire de langue allemande. Et donc, on était en un rapport privilégié avec Madame Tangari, qui s'intéressait à ce que nous faisons, on racontait un tout petit peu. Elle ne parlait rien d'elle-même. Rien. Mais elle était venue spécialement pour prier. Et c'était ça son grand principe. Elle visitait Écône presque tous les ans ou tous les ans. Elle visitait plus tard aussi le séminaire de langue allemande à Weisbad, en Suisse, près de Appenzell. Elle visitait plus tard le séminaire de Zeitzkofen, qui était, le séminaire de Weisbad était transféré, n'est-ce pas, là, à Zeitzkofen, près de Ratisbonne. Et toujours, elle passait, pendant ses visites, des longues heures devant le Saint-Sacrement. Elle priait beaucoup. C'était le contraire d'une femme qui aime le bavardage. Elle vivait très éteinte, je dirais, très désintéressée, inconnue. Elle, Brielle était là, et ce qui est intéressant, elle commençait alors à cette époque d'organiser un nouveau champ d'apostolat. Elle commençait à monter des petits groupes de prière, des groupes de Padre Pio avec quelques fidèles qui connaissaient le Padre Pio, spécialement en langue allemande, spécialement dans la région du lac de Constance. Et alors, elle encourageait ces groupes de soutenir la fraternité sacerdotale de Saint-Pédis. Et elle organisait elle-même une aide très efficace. Ces groupes, ces personnes lui donnaient des dons. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec cela? Elle achetait des ornements, des vases sacrés, des ostensoirs, tout. Et elle donnait ça spécialement aux nouveaux prêtres. Et chacun de nous pouvait choisir ce qu'il voulait. Elle avait toujours un petit stand, c'est pas, à l'occasion des ordinations à Écône, juste pour les prêtres, et chacun pouvait s'y rendre pour prendre un ornement, ou même tout un jeu d'ornements ou un ostensoire, ce qu'il voulait, c'est pas, bien sûr, tout gratuitement. Elle était une dame d'une bienfaisance, d'un désintéressement remarquable et extraordinaire, je dirais héroïque. Elle était spécialement une âme d'une piété eucharistique profonde, une âme de la prière intérieure, une âme aussi de la pénitence. Elle souffrait de l'asthme, elle souffrait terriblement. Mais elle ne se plaignait jamais de cela. Et donc, elle donnait toutes ses aumônes pour les prêtres. La fraternité, Mgr Lefebvre, c'était, dès cette époque, vraiment le but de son existence. Elle souffrait la crise de l'Église et elle souffrait et elle priait pour le renouvellement de l'Église et du sacerdoce. Elle souffrait cela dans son cœur, dans son âme. Je disais déjà, n'est-ce pas, qu'il y a des amis qui se joignaient à partir de 67 à son pèlerinage. Ces amis sont devenus peu à peu plus nombreux. Et c'est 1983 que M. l'abbé du Chalard a pour la première fois, en tant que prêtre de la fraternité, assisté à ce pèlerinage. L'année après, j'ai eu la grâce, je dis, c'est une vraie grâce, n'est-ce pas, de pouvoir assister moi-même. Et 1967, elle a accompagné le pèlerinage elle-même pour la dernière fois. Remarquez qu'elle avait à cette époque, alors, 81 ans. Et bien sûr, c'était toujours pieds nus, c'est évident. Alors donc, c'était son dernier pèlerinage. Et en entrant, n'est-ce pas, à la basilique, en traversant, n'est-ce pas, le portail, elle me dit, « Monsieur le supérieur général, je vous transmets maintenant ce pèlerinage. C'est maintenant le vôtre. Bien, je le donne dans vos mains. » C'était maintenant le pèlerinage de la fraternité. Elle était encore présente pour le pèlerinage de 1988. C'était un pèlerinage un peu exceptionnel. Parce qu'il y a eu beaucoup de neige, de glace, et il faisait pas mal froid. Elle ne pouvait plus assister au pèlerinage, mais elle priait, n'est-ce pas, à la chapelle. Et quand on arrivait avec quelques souffrances, nous autres, n'est-ce pas, elle n'était pas du tout inquiète. Elle a même affirmé que la Très Sainte Vierge est très contente, n'est-ce pas, de ce pèlerinage, qui est probablement le plus fructueux. Alors, le printemps après, au mois de mars, elle a déménagé de Naples dans notre prieuré, dans notre maison d'Albano, au sud de Rome. Et alors, elle est tombée peu après, au mois de juillet. Elle s'est cassée le col du fémur. Et à partir de ce moment, elle a dû rester dans le lit. Et c'est Mgr Lefebvre lui-même qui lui a donné l'extrême onction. Et elle était dans sa chambre, n'est-ce pas? Elle était dans sa chambre. Et elle est morte là, le 1er décembre 1989. C'était le premier vendredi du mois. Vendredi, donc, du Sacré-Cœur. Et elle est morte vers 16h30, n'est-ce pas, au moment où le cœur de notre Seigneur à la croix était ouvert. Or, chose absolument remarquable, ce jour-là, juste ce jour-là, a commencé dans la fraternité l'adoration perpétuelle qui se déroule dès cette date, dès ce 1er décembre 1989, à travers les différentes chapelles et prieurés de la fraternité, dans quatre buts, avec quatre intentions, de vaincre les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, le retour de Rome et des évêques vers la tradition, la vraie conversion, la sanctification des prêtres, le renouvellement du sacerdoce, et les vocations religieuses et sacerdotales. Et ce plan, n'est-ce pas, pour l'adoration perpétuelle, qui est établi à la Maison Généralis, a prévu que cette adoration commence juste à Albano. Et donc, elle est morte pendant que le Saint-Sacrement était exposé dans la chapelle qui se trouve juste en face de sa chambre où elle est morte. Mais ce jour, il y a eu encore un autre événement qu'il ne faut pas oublier. Ce jour-là, Gorbatchev, président de l'Union soviétique, était reçu par le pape à Rome. Et encore une autre chose, deux jours après, c'était dimanche, le 1er avant, en Italie était introduite officiellement la communion dans la main. Donc, je crois qu'il faut un peu voir cette vie et cette mort en relation avec les événements dans l'Église. Deux événements, n'est-ce pas, plutôt honteux, deux événements terribles, je dirais des trahisons, de désacralisation pour la communion à la main, n'est-ce pas, de faire des pactes, n'est-ce pas, avec ceux qui ne sont pas les amis, mais les ennemis de l'Église. Et à l'autre côté, n'est-ce pas, cette reconstruction, cette nouvelle mise en valeur, en évidence, du culte eucharistique. Nous avons enterré Mme Tangari le mercredi 6 décembre au cimetière du séminaire de Zeitzkofen en Allemagne, près de Ratisbonne. Et elle repose là, au milieu de nous. Elle a désiré, n'est-ce pas, de rester après sa mort avec nous. Et le 6 décembre, encore une chose qui est assez intéressante, c'est la fête de Saint-Nicolas, n'est-ce pas, de l'évêque Saint-Nicolas de Myre. Elle avait une dévotion tout à fait particulière pour ce saint. Alors, chers amis, je crois qu'on ne pourrait pas donner un aperçu de cette personne, de cette femme extraordinaire, de Madame Tangari, sans parler aussi un peu de l'Église, n'est-ce pas, et justement de la fraternité pour laquelle elle a travaillé, elle s'est sacrifiée, elle a prié, elle a passé le reste de sa vie. Or, nous voyons, n'est-ce pas, comment chaque jour les choses se dégradent, comment il y a vraiment une apostasie, n'est-ce pas, qui se répand de jour en jour et qui entraîne, n'est-ce pas, toutes les institutions chrétiennes, les familles. Il y a quelques jours, je parlais avec un journaliste suisse qui n'est pas du tout, n'est-ce pas, sur notre côté, n'est-ce pas, au contraire, un vrai ennemi, et qui disait, maintenant, écoutez, en Suisse, c'est un fait. Il y a au moins un tiers des mariages qui sont divorcés. Combien un tiers. Et c'est partout la même chose. Aux États-Unis, c'est encore bien pire. Mais c'est partout, n'est-ce pas? C'est la ruine de la société, qu'est-ce que vous voulez? C'est la ruine, n'est-ce pas, des écoles. Écoutez, n'est-ce pas, voyez la corruption, n'est-ce pas, des enfants. Corruption intellectuelle, corruption morale dans les écoles. Ensuite, n'est-ce pas, la ruine, n'est-ce pas, des États catholiques. Jusqu'au Concile Vatican II, il y a eu quand même encore quelques États vraiment catholiques, n'est-ce pas, qui professaient donc publiquement, officiellement, la royauté de notre Seigneur, qui disait, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Rédempteur, qui a toutes les trois, n'est-ce pas, et on lui réserve tous les trois dans notre territoire, sur notre peuple, sur notre nation. Or, c'est le Vatican, en se référant, n'est-ce pas, au Concile Vatican II avec le décret sur la déclaration sur la liberté religieuse, qui a poussé ces États, n'est-ce pas, de se laïciser, d'abandonner, n'est-ce pas, la royauté de notre Seigneur, de devenir des États athées. Et alors, quand on considère le vote qui était fait il y a peu de temps, n'est-ce pas, en Lituanie, qui est le seul peuple catholique, le seul peuple catholique qui faisait partie, n'est-ce pas, de l'Union soviétique. Bien, on est stupéfait. Ce seul peuple qui est catholique, n'est-ce pas, de l'ancienne Union soviétique, a voté plus de 40% communiste. Maintenant, ils ont reçu la liberté, ils ont pu, n'est-ce pas, se démettre des joues communistes, n'est-ce pas? Bien, ils ont la liberté, et qu'est-ce qu'ils font? Ils votent communistes. Ils votent communistes. Alors, cela montre, n'est-ce pas, dans quel état d'esprit sont les peuples, n'est-ce pas? Ils n'ont rien compris, ces gens-là. Rien. Mais, alors, parce que Rome ne fait plus, n'est-ce pas, son devoir. Parce que les évêques ne prêchent plus la royauté de notre Seigneur. Il est évident, n'est-ce pas, que les évêques de Lituanie auraient dû dire aux gens, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, voter communiste. C'est un péché mortel, n'est-ce pas, pour un catholique. Inconciliable, n'est-ce pas, avec notre sainte religion. Mais rien. Ruine, n'est-ce pas, des monastères. Ruine, n'est-ce pas, de la vie sacerdotale, bah, et de l'idéal, n'est-ce pas, du prêtre. Voyez, n'est-ce pas, tout se pousser maintenant, n'est-ce pas, vers l'abolition du célibat. Mais partout, n'est-ce pas, les masses médias, n'est-ce pas, sont comme déchaînés, n'est-ce pas, comme des diables, n'est-ce pas, partout, des synodes, n'est-ce pas, des réunions qui sont organisées, toujours vote, n'est-ce pas, contre le célibat et pour l'ordination des femmes, partout dans le monde entier. Alors, on voit ensuite comment, n'est-ce pas, les choses se développent. Prenez l'exemple très concret ici de la basilique. Jusqu'à l'année dernière, inclusivement, nous avons pu tous les ans dire la messe dans la basilique après les pèlerinages. On nous a mis à notre disposition une chapelle latérale. Pas de difficulté. Or, ça fait quelques semaines, le recteur a changé. Le nouveau recteur est tout toute une autre mentalité. Il y a M. Lev Dujalar qui les visite hier soir pour bien clarifier les choses. Pour ce matin, ben, on lui dit, écoutez, on est contre votre pèlerinage, n'est-ce pas, pieds nus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ensuite, dit-il, vous pouvez célébrer la messe en latin, mais pas la messe tridentine. Pas la messe tridentine. Messe en latin, donc la nouvelle messe, entendu. Pas la messe tridentine. Parce que la messe tridentine, dit-il, n'est plus catholique. Bien, alors, l'abbé du Chalard lui dit, mais est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous venez de dire? Il dit, oui, après le concile, il y a une nouvelle messe catholique. Non, il ne s'agit pas de ça, mon père, n'est-ce pas? Répétez ce que vous avez dit avant. Alors, je vous le répète, dit-il, la messe tridentine n'est plus catholique. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas, des gens comme ça, n'est-ce pas, nous rejettent, n'est-ce pas, nous excluent. Et ils disent, n'est-ce pas, ce sont vous, dit-il à l'abbé du Chalard, qui font les difficultés, toujours, les problèmes. Vous, pas nous. Alors je pense qu'il faut beaucoup prier, n'est-ce pas, pour Rome, pour la conversion de Rome. Parce que n'oublions pas que malgré toutes les déviations, malgré toutes les difficultés, malgré toutes ces conjurations, n'est-ce pas, cette occupation de l'Église, bien, c'est finalement de Rome d'où doit venir le renouvellement de l'Église. Nous pouvons préparer le terrain. Nous devons travailler quotidiennement pour cela. Nous pouvons et nous devons même, d'une certaine façon, forcer Rome, n'est-ce pas, de revenir à la tradition. Mais le mot d'ordre définitif va et doit venir de Rome. C'est ça la constitution de l'Église que nous ne pouvons pas changer. Notre Seigneur, n'est-ce pas, qu'il a construit son Église, bâti son Église sur pierre. Bon. Alors, à Bruxelles, où nous avons bien voulu nous réunir, n'est-ce pas, pour expier ce nouveau blasphème, n'est-ce pas, cette nouvelle rencontre interreligieuse. Ben, nous avons bien chanté devant le Saint-Sacrement, « Ut inimicus sancti ecclesiae humiliare digneris te rogamus audinos ». Daignez, Seigneur, humilier les ennemis de la Sainte Église. Nous vous prions, exaucez-nous. C'est là dans la litanie des saints, n'est-ce pas, cette invocation. Et on a bien chanté ça autrefois. On a beaucoup besoin de chanter ça aujourd'hui. Beaucoup. Alors, je crois que je devrais vous encore donner, si vous voulez, quelques nouvelles, quelques considérations sur notre fraternité. Et je vous donnerai quelques chiffres. Je sais très bien, n'est-ce pas, que les chiffres, en définitive, ne disent rien en eux-mêmes. C'est vrai. Mais regardons un peu le chiffre dans les contextes spirituels, dogmatiques, c'est pas, et dans le contexte de la vie quotidienne. Alors, 1982, il y a 10 ans, septembre 82, la fraternité comptait 73 prêtres. 10 ans après, 1992, elle compte exactement 273. Exactement 200 de plus. Donc, ça fait une augmentation de 20 prêtres en moyenne par année. Inclut toutes les trahisons, n'est-ce pas, qui nous a subies quand même, toutes les infidélités, toutes les faiblesses humaines qu'il y a eu, douloureusement, n'est-ce pas? Alors, malgré tout cela, donc, une augmentation. Évidemment, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est quand même, n'est-ce pas, tous les ans,
20 prêtres de plus. Avec les 220 séminaristes, ça fait quand même une petite armée de 500 hommes. Si on ajoute encore les 40 frères, les 50 oplates, si vous voulez, les 100 sœurs de Saint-Michel-en-Prenne, ça fait quand même une petite armée de 700 âmes qui travaillent jour par jour, même si on considère, n'est-ce pas, encore tout le côté humain, qui travaille tous les jours à son propre à sa propre sanctification, qui travaille tous les jours pour relever les peuples de leur chute, pour restaurer les choses dans le Christ, pour répandre, annoncer la foi, vivre la foi et rétablir l'ordre surnaturel. Dans les saints de la fraternité, il y a actuellement 45 écoles. Écoles de toutes sortes. Écoles primaires, écoles secondaires, écoles de garçons, écoles de filles, internats, externats, avec tout ensemble à peu près 2500 élèves. Je ne compte pas là-dedans, mes chers amis, les écoles de dominicaines, par exemple, qui sont des institutions merveilleuses, fructueuse, où il y a un bien, n'est-ce pas, énorme qui se fait. Et n'oublions pas, n'est-ce pas, que dans ces chiffres que je viens de vous donner, il n'y a pas inclus non plus les 20 communautés, familles religieuses liées avec nous dans une amitié profonde. Par exemple, le prêtre de Campos, par exemple, les dominicains, les dominicaines, les bénitiens, les bénédictines, les capucins, les rédemptoristes, ou tout ce que vous voulez, les carmels. Alors, évidemment, tout cela, c'est un motif d'une action de grâce vis-à-vis du bon Dieu. On ne peut que tomber à genoux, vous remercier pour tout cela, pour tout ce bien qui s'est fait. Et pour vous donner un tout petit exemple, je nommerai les Philippines, peuple, un des peuples les plus grands, un des peuples catholiques les plus grands du monde, avec 63 millions d'habitants, repartis sur 7000 îles, 84% catholiques, peut-être les pays encore les plus catholiques du monde. Or, il y a deux de nos prêtres qui sont allés là-bas, pas pour fonder les prieurés, le 18 août, sont-ils arrivés à Manille, à la capitale. Ils ont loué une maison, ils ont installé une chapelle. Et le premier dimanche, c'était 75 personnes à la messe. Ensuite, ça a augmenté un peu. Aujourd'hui, après 2 mois et demi, si vous voulez, il y a à peu près 130 personnes à la messe du dimanche. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Mais ce qui est beaucoup plus remarquable, c'est qu'il y ait 4 jeunes gens qui vivent avec les prêtres au prieuré pour se préparer à leur entrée au séminaire au mois de mars. L'année prochaine, entrer, n'est-ce pas, en Australie, où sont entrés déjà cette année, le mois de mars, 3 Philippins, n'est-ce pas, de ce groupe de jeunes auquel ils appartiennent. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. Alors, nos deux confrères ont déjà pu prêcher une retraite pour les hommes, pour les jeunes, une retraite pour les jeunes filles. Ils ont pu donner récemment une conférence sur la pénitence à 100 étudiants d'université, une autre conférence à 200 étudiants d'université, n'est-ce pas, sur la crise de la foi. Et ils ont 50 enfants au catéchisme. Donc, il y a un travail considérable, très profond, fructueux. Et cela vous montre le travail qui serait à faire un peu partout. Malheureusement, il nous manque le prêtre. Il faudrait avoir au moins une centaine par année, pas au moins, pour répondre aux cris d'alarme les plus urgents, les plus pressants. Voyez tous les pays ici. Nous célébrons maintenant tous les mois une messe à Budapest. Nous célébrons tous les mois une messe à Prague. Il y a des contacts avec l'Ukraine, avec un groupement de jeunes important, très important. Il y a des contacts avec les pays baltes. Nous avons un petit groupe, n'est-ce pas, à Moscou. Il y a des contacts avec des groupements de jeunes en Pologne, pour ne donner que cet aspect, n'est-ce pas, des pays de l'Est. Il y a bien sûr les pays de l'Afrique, il y a les pays de l'Amérique du Sud. Partout, n'est-ce pas, il y a ce cri d'alarme, n'est-ce pas, des âmes qui nous appellent au secours. Et nous nous rendons bien compte, mes chers amis, que si nous envoyons 2, 3, 4 prêtres dans un pays, bien, ils font un travail un peu semblable à celui qui se fait maintenant aux Philippines ou qui se fait dans les autres pays. C'est-à-dire, des âmes se sauvent qui autrement seraient perdues éternellement. Deuxièmement, une telle institution peut être le salut de toute une nation, de tout un peuple. N'oubliez pas que le petit pèlerinage Notre-Dame des Bourguillons près de Fribourg était au temps, à l'époque de la réforme protestante, était le point de repère, le point de référence pour les catholiques de Fribourg. Et c'est ainsi, par ce pèlerinage, que Fribourg est resté une ville catholique. Eh bien, un tel prieuré peut être et doit être exactement aussi un point de référence, un point qui rayonne, un point, n'est-ce pas, qui attire, et où les catholiques s'adressent, et peut donc être le point de départ vraiment de la réchristianisation de tout un pays. Mais, malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Alors, je pense, nous sommes réunis ici et faisons également ces pèlerinages auprès de Notre-Dame, n'est-ce pas, de Mariazell, auprès de l'enfant Jésus de Prague, pour supplier les cieux de nous envoyer des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'urgence, n'est-ce pas, de prêtres et beaucoup de bons prêtres. Beaucoup. Sinon, ces pays, n'est-ce pas, c'est la ruine totale. Vous voyez, s'il y avait eu, n'est-ce pas, quelques prêtres en Lituanie, de notre part, qui auraient pu faire un certain travail de publicité, n'est-ce pas, s'adresser aux catholiques, en disant, mon Dieu, n'est-ce pas, ne votez pas pour les communistes, ne votez pas pour vos propres bourreaux. Quand même, il n'y a pas eu. Et alors, troisième considération, n'est-ce pas, sur cette nécessité des prêtres, sauver les âmes, être le salut, n'est-ce pas, de toute une nation, je pense, avec ces institutions, on peut, d'une certaine façon, forcer Rome et les évêques à réfléchir et à revenir vers la tradition. Évidemment, n'est-ce pas, c'est un travail long, patience, néanmoins, la pression, n'est-ce pas, de forces destructives est telle aujourd'hui que je pense ceux qui sont encore un peu bien pensants se rendent compte, n'est-ce pas, qu'il ne reste rien à faire, il faut s'appuyer sur cette famille de la tradition. C'est là, n'est-ce pas, là, vraiment l'Église, c'est vrai, ceux, n'est-ce pas, qui sont là pour, avec les petites troupes, si petites soient-elles, pour tenir un nouveau souffle, n'est-ce pas, pour aider à réchristianiser le peuple. Alors, je vous demande, n'est-ce pas, donc d'être très généreux pendant ce pèlerinage, de vous sanctifier, et spécialement, n'est-ce pas, de prier, prier beaucoup, n'est-ce pas, que, par exemple, notre Seigneur, n'est-ce pas, suscite des vocations en Tchécoslovaquie. Nous avons deux vocations tchèques dans notre séminaire de Zeitzkopf. Nous avons eu cette année le premier roumain à Flavigny. Nous avons le premier polonais à Zeitzkofen. Nous avons un frère qui est entré, n'est-ce pas, roumain à Zeitzkofen également. Alors tout cela, n'est-ce pas, est fort réjouissant. Mais qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, en comparaison avec tout ce travail vaste, immense? Qu'est-ce que c'est avec l'Église dans son totalité? Qu'est-ce que c'est avec cette humanité, n'est-ce pas, complètement plongée dans le mal, dans le péché? Donc, alors, nous prenons notre refuge vers Dieu. Pensons, n'est-ce pas, que le combat entre David et Goliath, ce n'est pas seulement déroulé dans l'Ancien Testament, mais se déroule encore tous les jours. Or, David a mis toute sa confiance en Dieu, et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il a tué ce géant diabolique, Goliath. Et j'espère, n'est-ce pas, je désire de toute mon âme, n'est-ce pas, que nous faisons ensemble autant. Et je voudrais conclure cette petite conférence avec une petite prière de Madame Tangari, qu'elle a voulu mettre sur son image de mortuaire. Tout ce que j'ai pu faire de bien dans ma vie fut une grâce, une pure grâce de Dieu non méritée. Que vous, très douce Mère de Dieu, ayez voulu me donner tant d'amour pour vous, fut ma plus belle récompense. Voilà, peut-être nous pouvons maintenant conclure avec un Ave Maria.
Chers frères, bien chers pèlerins, nous voici donc arrivés au sanctuaire de l'Enfant Jésus de Prague. Le bon Dieu, il est bon avec nous de nous conduire jusqu'à ici pour que nous nous prosternions aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ pour proclamer tout d'abord, dans un acte de foi très vif, sa royauté. Et pour ensuite demander à notre Seigneur d'être efficacement, vraiment, le roi de nos âmes, le roi de nos familles, le roi de la Sainte Église, le roi des peuples et des nations. Quel est le fondement de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est la divinité de notre Seigneur. Notre Seigneur, il est vrai Dieu, lumière de la lumière. Le Fils éternel du Père éternel, consubstantiel avec le Père. Et donc, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a posé ses lois, inséré ses lois dans sa création. Et qui ensuite gouverne toute la création par sa divine providence, par son gouvernement divin. Il est le législateur, il est le maître, il est le roi, il est le juge et il est la dernière fin de toutes choses. Voici donc le fondement bien mis en évidence par saint Paul dans ses différentes épîtres, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Hébreux, mis en évidence par l'apôtre saint Jean dans l'Apocalypse, où il décrit notre Seigneur dans sa royauté, dans sa gloire, dans le premier chapitre de ce livre, dans ses visions, où il le voit dans toute sa splendeur, régnant sur le peuple, sur les nations, régnant au milieu de son Église. Mes chers frères, après nous avons mis devant les cieux le fondement de cette royauté, donc qui se trouve ancrée, qui se trouve dans sa divinité, nous devons nous poser les conclusions qui découlent, les conséquences qui découlent de cette royauté. Eh bien, tout d'abord, notre Seigneur, il est vraiment le maître de toutes les individus, de tous les hommes, dès le début du monde jusqu'à sa fin. Et toutes les intelligences doivent se soumettre à sa vérité naturelle, sa vérité surnaturelle qu'il a bien voulu nous révéler. Toutes les volontés doivent se soumettre à lui. Tous les cœurs doivent l'aimer comme leur maître et leur dernière fin. Tout doit être concentré vers lui. Donc, tous les individus doivent le servir. Et ceux qui ne le servent pas dans l'amour, dans la charité, sont obligés de le servir dans la justice. Oui, même les démons dans l'enfer doivent encore glorifier notre Seigneur. Même là, dans l'enfer, notre Seigneur est roi. Et ils doivent encore confesser cette royauté dans sa justice qui ne subit pas des exceptions. Notre Seigneur, roi des individus, notre Seigneur, roi des familles. Et, mes chers amis, nous devons, je pense, ici, chez l'enfant de Jésus de Prague, nous rendre compte que le mariage est un sacrement de l'Église, est indissoluble, et que par le divorce, introduit partout, on ruine pas seulement les familles et on apporte de misère sur les enfants, mais on ruine toute la société et toutes les nations, parce que la famille, c'est la cellule, n'est-ce pas, de toute la société. Et nous devons donc demander à l'enfant Jésus que ces fléaux soient enlevés de nous, que la société retrouve de nouveau son fondement, cette cellule importante du mariage indissoluble, unique. Nous devons ensuite monter l'échelle et voir dans tous les domaines de la société comment notre Seigneur est roi et comment notre Seigneur veut régner. Eh bien, voyez dans la vie publique, dans la vie politique, comment toutes ces parties ont divisé le pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne serait pas beaucoup plus naturel que les familles délèguent ceux qui sont appelés au gouvernement, que les chefs de famille, n'est-ce pas, fassent une certaine représentation, un certain parlement, et qu'à partir de ce parlement, il y aurait le gouvernement? Est-ce que vous ne pensez pas que le mal s'est aussi introduit dans l'économie, où nous voyons, n'est-ce pas, l'usure, où nous voyons la corruption? Est-ce que l'économie n'est pas tout d'abord un service de charité vis-à-vis du prochain? Est-ce que nous ne devrions pas vraiment retourner Père, ce que notre Seigneur a voulu instituer, insérer dans la création, instituer dans son incarnation et sa rédemption, dans son Église. Et ainsi, n'est-ce pas, nous pouvons parcourir tout le domaine, la politique, l'économie, l'éducation, la vie publique, le mode, tout, n'est-ce pas, doivent être restaurés dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et, mes chers amis, nous ne sommes pas ici seulement pour, en tant que défendants de la vraie messe catholique. Mais nous voulons qu'à partir de la messe catholique, il y ait un rayonnement dans la société. Et nous sommes ici à Prague, n'est-ce pas, lieu historique, comme nous avons dit hier, missionné, christianisé par Cyrille et Méthodius, christianisé par Saint Wolfgang à partir des Ratisbonnes. Et il y a eu des fleurs magnifiques de la sainteté dans ce pays. Mais alors, vous voyez, et vous avez certainement constaté aujourd'hui, à travers ce voyage, comment il y a eu toute une civilisation, toute une culture athée. Vous avez eu ces grands buildings, n'est-ce pas, où les hommes sont casés comme des lapins, déracinés de la terre, où il n'y a plus une vie vraiment humaine, où l'individu est écrasé, où la personne humaine est méprisée. C'est là, n'est-ce pas, la société sans Dieu, une société qui a mis notre Seigneur à part, à côté, qu'il a éjecté, qu'il a éliminé ses lois. C'est là les fruits amers, de l'athéisme, de libéralisme, du siècle des Lumières, et spécialement ici dans ces pays de l'Est, n'est-ce pas, du marxisme et du socialisme. Bien, on voit ici les cultures, on voit encore les maisons d'autrefois, des petites maisons où il y a eu les familles qui habitaient dans la paix, dans la sérénité, qui certainement menaient une vie chrétienne. Et ensuite, on voit cette nouvelle culture, n'est-ce pas, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a poussé de la terre toute athée. Pas seulement loin de Dieu, mais encore vraiment ce mépris pour l'homme qui n'est plus qu'un numéro, qui n'est plus qu'un esclave. Et tous ces pays, encore jusqu'à peu de temps, étaient une prison énorme. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas entrer, et les gens, n'est-ce pas, C'était tous sous la peur, sous la tyrannie despotique. On ne peut pas s'imaginer, n'est-ce pas, ce qui s'est déroulé dans ce pays. Une persécution violente contre l'Église, depuis spécialement les années 70, jusqu'à il y a 304 ans, n'est-ce pas. Beaucoup de prêtres assassinés, des séminaires vidés, les séminaristes dispersés, les professeurs mis en prison. Tout cela, n'est-ce pas, au nom, n'est-ce pas, d'une nouvelle culture, au nom du socialisme, au nom, n'est-ce pas, de ces faux principes, ces fausses idéologies anti-chrétiennes et athées. Mes chers amis, je pense donc notre premier devoir et notre première intention ici, au pied de l'enfant Jésus de Prague, c'est une proclamation à notre Seigneur, faite à notre Seigneur, que sans lui, il n'y a point de salut, il n'y a point de rédemption, il n'y a point d'un vrai bonheur sur cette terre. Que les individus, les familles, la société, les États, les nations, bah, doivent tous se mettre sous sa loi, son joug très tôt, s'ils veulent vraiment trouver le vrai bonheur. Donc, tout d'abord, un acte de proclamation de notre foi. Ensuite, une demande pressante, un cri de notre cœur envers notre Seigneur, qu'il soit vraiment le roi de notre cœur, de notre âme, qu'il soit le roi dans nos foyers. Eh bien, prenons la résolution ferme que, dans la mesure où ça dépend de nous, que nous voulons que notre Seigneur règne dans nos maisons, dans nos familles, que nous le voulons et nous travaillons à ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que, dans la mesure où ça dépend de nous, eh bien, nous devrions aussi reconstruire, restaurer les institutions chrétiennes que notre Seigneur nous a voulu laisser, justement, pour le bien des âmes, pour que la sainteté dans la famille, dans les écoles, dans les monastères, dans la vie sacerdotale fleurisse. Et notre Seigneur, justement, a voulu que la chrétienté se réunisse autour des autels du sacrifice, autour de son tabernacle, qu'elle s'imprègne de cette atmosphère, de ce climat, de l'Eucharistie, où notre Seigneur nous donne l'exemple de l'humilité, de l'obéissance, de la patience, du don de soi-même en honneur de son Père et pour le prochain, afin que aussi nos maisons, nos cités, nos pays s'informent d'après cet esprit, l'esprit d'adoration de Dieu et l'esprit d'insérer la loi de notre Seigneur dans les constitutions des peuples, dans les constitutions des nations, et ensuite, adoration de Dieu, ensuite le service du prochain, l'amour du prochain. Et alors, parce que nous avons tous perdu un peu cet esprit du sacrifice, cet esprit de la croix, c'est pourquoi il y a un tel esprit de désordre, un esprit d'égoïsme partout à travers ce qui nous entoure. Alors, mes chers amis, promettons, n'est-ce pas, notre Seigneur ici solennellement, que nous travaillerons tous, dans la mesure que ça dépend de nous, travaillerons, n'est-ce pas, à la restauration de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là tout un programme à faire. Et nous, Français, Suisses, Autrichiens, Allemands, c'est pas, nous voulons vraiment que notre Seigneur, de nouveau, si dans nos pays de l'Europe centrale, vraiment soit mis en honneur, et prier également, n'est-ce pas, surtout vous, les Suisses, ici à l'Enfant Jésus de Prague, que votre pays fasse un vote sage le 6 décembre. C'est une intention très importante que nous devrions, n'est-ce pas, avoir ici à l'Enfant Jésus de Prague, afin que votre pays ne rentre pas dans ce mondialisme athée, justement, qui méprise les nations dans leur individualisme, qui méprise, n'est-ce pas, justement, le fédéralisme, qui ne veut plus qu'une masse, un seul gouvernement mondial, une seule religion, n'est-ce pas, mondiale. Or, cela, c'est une abomination et c'est la préparation du règne de l'Antichrist. Et si vous êtes des vrais chrétiens, vous priez ici, vous demandez la force pour battre, mener les bons combats pour notre Seigneur et pour répandre la bonne doctrine et les principes d'une doctrine sociale autour de vous. Soyez les apôtres, soyez les missionnaires de notre Seigneur Jésus-Christ, de cet enfant Jésus, n'est-ce pas, qui est ici pour justement être proclamé roi et pour justement, n'est-ce pas, exaucer aussi nos prières. Eh bien, Je crois que nous ne pourrions pas mieux faire que célébrer ici, vraiment, en arrivant ici, la Sainte Messe et la Sainte Messe de Saint-Nom de Jésus et ainsi vénérer notre Seigneur, le proclamer roi et le demander beaucoup de grâce de cette sauce intérissable qui est le Saint-Sacrifice de la Messe. Ainsi soit-il. Nom du Père, du Fils.